Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Monsieur Pierre-Antoine Landel. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Pierre-Antoine Landel, vous êtes membre du comité de rédaction des études dromoises, une revue qui traite justement de la Drôme et de son patrimoine, notamment de tous ordres, hein, que ce soit architectural, historique, personnalité également. Alors, avant de commencer, vous allez peut-être nous retracer un peu un historique de cette revue, je crois, qui est née dans les années 2000, il me semble.
Non, c'est bien plus ancien.
Ah, oui.
Elle est née en 1960. Elle est née dans des conditions un peu particulières de l'évolution de la pédagogie dans les écoles. Elle est née à l'école normale des instituteurs de Valence. Et c'est un groupe de professeurs qui a décidé de mettre en place un bulletin et à destination des écoles pour essayer. C'était le moment où la pédagogie s'intéressait à la question du territoire et à la question de la Drôme. Et donc, pour aider les instituteurs et institutrices à faire les cours, ils avaient mis en place un bulletin porté par une association qui s'appelait l'Association universitaire des études drômoises. Et ce bulletin, il était tout simple, il était renéoté, mais il était de très bon niveau. Le numéro 1, qui est accessible en ligne sur le site des études drômoises, relate d'une sortie à Die avec André Dezaille et qui décrit le patrimoine archéologique de Die avec une très bonne facture, de très bonne qualité. C'était le souci au départ. Et puis après, comme de nombreuses revues, ça a évolué. C'est devenu les études drômoises et puis ça a été imprimé, ça a pris de la couleur, ça a pris de la photographie et ça donne le bulletin qu'il est aujourd'hui qui traite de la question du patrimoine en général. Alors le sous-titre c'est la revue du patrimoine de la Drôme, mais bien évidemment c'est pendant toute cette période des années 60 à aujourd'hui que la notion de patrimoine s'est considérablement élargie. Elle s'est élargie dans l'espace, puisque André Malraux, qui est le premier ministre de la Culture, parlait de la cathédrale à la petite cuillère quand il parlait de l'inventaire du patrimoine de la France. Et puis ça s'est élargi à toutes les catégories sociales. Maintenant, on parle de patrimoine historique, mais aussi on parle de patrimoine matériel, de patrimoine immatériel, de tous les savoir-faire, de tous les parler, de toutes les pratiques locales. Par exemple, le numéro 1, le premier article du numéro 100, là, qu'on va évoquer, met en évidence une belle photo de la fête de la transhumance à Die. Et c'était le moment où André Pitt affirmait que le patrimoine, c'était la vie quotidienne et c'était la vie de tous les jours. Et je crois que la revue, elle incarne exactement ce mouvement d'élargissement du patrimoine.
Je reviens un peu sur cette création opérée en 1960 par André Bernard, qui était professeur d'histoire et de géographie, et Yvonne Thomas, professeur de sciences naturelles, rédactrice d'études géologiques. Donc elles avaient cette envie de partager ces connaissances. Quelle était cette motivation de distribuer ces bulletins, ces documents? Est-ce qu'il y avait une nécessité de pouvoir partager et à qui? Envers qui?
C'était envers les instituteurs, les écoles. C'était ça la première vocation du bulletin. C'était le moment où la pédagogie s'intéressait au local, aux communes de la Drôme, etc. Et pour apporter du matériel aux professeurs des écoles, eh bien, ils apportaient ce bulletin-là. Mais petit à petit, alors, on constate un double mouvement d'élargissement du lectorat, mais en même temps d'éloignement, malheureusement, des écoles, puisque le bulletin n'est plus distribué dans les écoles et que maintenant le lectorat, c'est un lectorat plutôt volontaire, quoi. C'est sur abonnement ou par achat, mais il est plus diffusé dans les écoles comme il l'était auparavant.
Là, nous abordons le 100e numéro hein, de cette publication. Elle se veut commémorative, un rappel aussi de son histoire.
Alors, ce n'est pas tellement une commémoration, c'est surtout de poser une question d'actualité. La question, elle est simple. Comment aujourd'hui, des titulaires de patrimoine ou des gens qui sont intéressés au patrimoine mobilisent les patrimoines pour penser les transitions à venir? C'est-à-dire qu'on passe d'une période où le patrimoine, tel qu'il était décrit, souvent il accompagnait la formation des territoires. Par exemple, dans le Diois, ça a beaucoup été utilisé, les savoir-faire anciens comme la transhumance, mais aussi les chapelles, les châteaux, l'habitat rural, sont souvent considérés comme des patrimoines et ils ont été enseignés en tant que tels. Alors qu'aujourd'hui, le patrimoine aussi est mobilisé pour penser l'avenir. Et ça, c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on mobilise le patrimoine pour penser les transitions? Et avec plusieurs hypothèses, mais en particulier celle que le patrimoine, c'est d'abord un bien commun. Ce n'est pas un bien qui est uniquement à des propriétaires privés. Dans nombreux cas, il peut être considéré comme étant commun, c'est-à-dire il peut être utilisé par d'autres que leur propriétaire. On pense particulièrement au patrimoine naturel, à tout ce qui relève de la nature, mais aussi d'autres patrimoines comme les chemins, les passages, etc., qui souvent sont utilisés par d'autres que leur propriétaire, et qui font que c'est un bien qui est préservé parce qu'il est hérité du passé, il a été hérité, mais ceux qui l'ont reçu l'ont sélectionné, ont sélectionné à partir de valeurs. Et on peut faire exactement le même parallèle que l'héritage familial. Quand on reçoit un patrimoine, d'abord, on peut en détruire une partie parce qu'on dit qu'il n'a pas de valeur. Puis après, on peut en conserver une autre. On la met au grenier, on dit que ça aura peut-être un jour de la valeur. Puis après, on peut aussi le restaurer. On peut le mettre à utilité parce que ça a de la valeur. Et puis après, on va le conserver, on va l'exposer. On peut l'exposer dans des musées, on peut aussi l'exposer en public, tout simplement. Et puis, on va, dans certains cas, le valoriser pour d'autres fonctions que celles pour lesquelles il a été créé. Mais toujours, dans cet acte de sélection, il y a des valeurs qui sont associées au patrimoine. Et ce sont ces valeurs qui sont transmises, y compris dans des conditions de transmission. Il y a un autre fait qui semble important, c'est que la transition est souvent vécue comme étant une rupture, pensée comme étant une rupture, donc conflictuelle et tout ça. Eh bien là, ce dont on s'aperçoit, quand le patrimoine est mobilisé, au contraire, il peut s'inscrire dans des continuités. Il peut s'inscrire dans des continuités parce que le patrimoine a une fonction qui est quand même extrêmement importante pour nous. C'est qu'au lieu de cliver, au lieu de séparer, au lieu de fracturer, comme c'est souvent le geste fréquent au moment des transitions, comme on le voit tous les jours en ce moment en politique, ceux qui fracturent sont beaucoup plus importants que ceux qui relient. Au contraire, le patrimoine, il a une fonction très particulière, c'est qu'il relie.
Il y a ce rappel de l'histoire du patrimoine qui émane donc de cette vie quotidienne de ces habitants de la Drôme, avec leur peut-être création, leur statut, des établissements aussi, de techniques, de moyens. Tout cela, c'est pour vous nécessaire de le rappeler et peut-être d'y trouver aussi quelques solutions pour l'avenir. Est-ce qu'on peut dire que les générations antérieures avaient peut-être une meilleure connaissance de leur terre et peut-être du climat et qu'il y avait toujours une solution qu'on aurait peut-être oublié. Donc ça, c'est une nécessité de rappeler un peu cette notion de patrimoine.
Vous verrez, dans le numéro 100, il y a 12 récits, des exemples qui sont pris dans la Drôme de transmission, de transition, qui mobilisent le patrimoine. Elles portent sur différents domaines de la vie. Il y a la façon d'habiter, la façon de créer, la façon de travailler, la façon de produire de l'alimentation, il y a la façon de produire de l'énergie, de se déplacer. Un peu tous ces domaines-là sont mobilisés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a dans ces éléments-là des éléments du passé qui sont repris au service du futur. Je prends deux exemples qui sont pris dans le Diwa, qui sont quand même assez intéressants. Les autres exemples ont été écrits ailleurs dans la Drôme, on pourrait y revenir, mais ceux-là sont significatifs pour le Diwa. Le premier, c'est un mot d'un petit village qui est Bellegarde en Diwa, qui est plutôt vers la moitié Chalancon. Et ce hameau, il s'appelle Molahuc. Il a été écrit par Jean-Claude Doma, qui est géographe, qui était géographe au lycée de Die, qui est très connu dans le Diwa, qui est un très grand connaisseur de la moitié Chalancon, et qui montre que il y a plus d'un siècle, dans les hameaux de Molahuc, qui étaient importants, il y avait presque 140 habitants. Dans les années 70, il en restait 3. Et donc, comme tous les hameaux, aux nombreux villages de l'arrière-pays, enfin de la montagne, etc., c'était un exode rural colossal qui s'était produit et dans lequel on voyait du mal à voir l'avenir. Et sont arrivés, dans les années 70, de nouveaux habitants qui ont repris, mais sans rompre avec le passé, qui ont repris souvent les fermes, etc., et qui se sont attachés à discuter avec les anciens pour recueillir des techniques, etc. Et là, dans le cas présent, ils ont repris un élevage qui était très ancien dans le Diwa, c'était l'élevage de brebis. Ils en ont fait un gaec extrêmement important, qui s'appelle le gaec Molahuc, avec, c'est vrai, des changements au niveau des races, des changements au niveau peut-être de la façon de gérer l'espace, de gérer les pâturages, etc. Mais ça n'empêche qu'ils ont montré qu'il était possible de vivre en même temps qu'arrivait sur le hameau un maçon qui a reconstruit presque le hameau et pour arriver aujourd'hui au constat qu'il y a 48 habitants à Molahuc, dont plus de la moitié travaillent sur place, avec toujours un emploi dans la ferme de Molahuc, l'élevage qui a été transformé, parce qu'avec l'arrivée de loup, ils ont été obligés d'adapter le troupeau, ils ont introduit des vaches, etc. Mais ça n'empêche qu'ils se sont adaptés au loup, mais aussi ils ont des magasins de vente directe, ils ont des techniques d'ancrage au territoire, en même temps qu'il y en a toujours qui travaillent sur l'habitat, il y en a qui travaillent sur, je crois, des toilettes sèches. Enfin, il y a différentes activités qui sont menées sur le hameau qui leur permettent de vivre sur place, tout en s'inscrivant quand même dans la longue histoire de ce territoire. L'autre exemple, c'est le monastère de Sainte-Croix. Le monastère de Sainte-Croix, c'est une très vieille histoire du Diwa, puisque c'est un monastère qui a été longtemps occupé par les Antonins. C'était les moines qui s'occupaient des malades suite à la maladie des ardents, l'ergot du seigle, qui entraînait des gangrènes épouvantables et qui étaient soignés souvent par de la bonne nourriture, mais aussi des plantes, des onguents à base de plantes, voire dans certains cas, il fallait amputer le membre. Et donc là, on voit quand même apparaître déjà l'activité autour des plantes dans le Diwa qui est reprise aujourd'hui avec on sait combien de succès quand même dans la vallée de la Drôme et dans le Diwa puisque c'est plus de 400 emplois aujourd'hui dans des entreprises qui traitent les plantes. Et puis le monastère a été repris pendant quelques années par une association et aujourd'hui il est devenu une coopérative avec des sociétaires qui sont soit issus du Diwa, soit d'ailleurs, soit des partenaires privés, d'autres. Et ils sont complètement engagés dans la transition énergétique. Et là, récemment, ils viennent d'installer une chaudière à bois avec une autre coopérative qui s'appelle Diwat et qui fournit la chaudière, fournit la chaleur, quoi. Et elle a installé la chaudière, elle l'a financée, elle la provisionne en bois. Et il revend la chaleur au nouveau monastère, ce qui fait un modèle plus économique pour la coopérative. Et puis une autre, c'est qu'ils ont passé avec un contrat avec l'association ACOPREV à Saint-Julien-en-Quin, qui est très connue dans le domaine de la transition, qui a installé des ombrières au-dessus du parking et qui donne de la production d'énergie renouvelable. Et donc là, on a un exemple d'une inscription très forte du site dans la transition énergétique avec des partenaires locaux. C'est-à-dire, c'est une idée assez importante, c'est quand même cette idée d'économie circulaire. On va prendre à partir des ressources locales et on va penser l'économie à partir de ces ressources locales. Et je crois que l'idée de patrimoine aussi permet ce geste-là.
Donc là, vous venez de nous parler un peu de cette conjugaison entre le patrimoine et puis aussi les connaissances actuelles qui permettent de d'amener un certain confort. On parle de cet ancien monastère de Sainte-Croix et puis l'activité aussi à Mont-la-Huc. J'imagine que les personnes qui ont repris ces lieux de Mont-la-Huc sont venues avec des connaissances d'ailleurs. Est-ce que ça aussi, c'est le patrimoine se nourrit de ce qui vient à lui?
Voilà, c'est extrêmement important de penser que tout ça, c'est quand même... Ça amène pas du confort, je dis toujours, ça amène de l'autonomie. Et quand on réfléchit à ce que c'est que l'autonomie, ça commence par la connaissance, et par la capacité à construire ses propres connaissances. Et ce qui est intéressant dans le Diwa, c'est que ça a été un formidable mélange de connaissances. Il s'avère que j'ai été amené à travailler sur, par exemple, l'agriculture biologique dans le Diwa, de la façon dont ça s'est développé. Et on s'aperçoit que ça mobilise à la fois... des connaissances très anciennes, issues de savoir-faire locaux, à partir de l'élevage, mais aussi des soins aux animaux, à partir de l'alimentation, etc. Et puis, ça mobilise des connaissances modernes qui ont été souvent apportées par le haut, par la révolution agricole, comme on dit, par les lycées agricoles, par le bien connu CFPPA de Die, qui a eu un rôle extrêmement important dans la modernisation. Et puis, aujourd'hui, par ces coopératives qui sont nées et qui font que c'est des lieux de rencontre entre des nouveaux agriculteurs, des néo-ruraux, comme on les a dit, mais qui étaient fortement intéressés par la vie locale, qui se sont intéressés à la vie locale et qui ont travaillé avec les agriculteurs en place pour fonder des nouveaux savoirs, des savoirs qui mélangeaient à la fois des savoirs anciens et des savoirs nouveaux. Un exemple éminent dans le Diwa, c'est la coopérative des plantes aromatiques du Diwa. Quand on regarde l'organigramme au moment de la création, il était présidé par un néo-rural, mais les vice-présidents, c'était des paysans de la vallée de Quin, des gens extrêmement ingénieux qui avaient l'art du bricolage. Quand on est dans l'innovation, on n'est pas souvent dans le savoir figé, on est dans le bricolage, on est dans l'incertitude, on fait des essais, on fait des erreurs, etc. Eh bien, tous ces agriculteurs de la vallée de Quin, M. Vieux, M. Mars, etc., étaient très impliqués dans la coopérative et ils ont apporté ce savoir-faire très local du bricolage. Pendant que Sjoerd Vartana, le premier président, lui, il apportait sa connaissance des langues, des marchés, et pour faire de la vente des plantes.
Il y avait aussi une question que je voulais poser concernant cet essor de population en 1850-51 dans la Drôme et dans le Diwa notamment. Est-ce que ça a marqué ce territoire par cet afflux de population et qu'est-ce qui s'est ensuite produit pour que il y ait eu ensuite cet exode rural?
Alors là, c'est un processus bien connu quand même, c'est que dans toutes les montagnes, il y a eu, c'est pas des arrivées de populations nouvelles, mais un petit peu, hein, avec la religion, en particulier le protestantisme, dans lequel le Diwa était une zone de refuge. Mais surtout le fait que les ressources étaient limitées, comme partout, et en particulier les ressources fourragères. C'est-à-dire que plus il y avait de population, plus il y avait besoin de terre. Et plus il y avait de terre, plus il y avait de pâturage, etc. Et ça a débouché sur du surpâturage, c'est-à-dire le fait que les villages devenaient de plus en plus difficilement vivables. Et donc il y a eu un processus qui s'est enclenché, qui a fait que... c'est un double processus. Les gens avaient de plus en plus de mal à vivre, donc ils allaient ailleurs. Mais en plus, le fait que le surpâturage entraînait un défrichement total, il n'y avait plus d'arbres. Et donc, il y avait des crues considérables à l'aval et qui ont amené l'État à prendre des mesures plus autoritaires de replantation des terrains de montagne, reboisement en montagne, et qui fait qu'on a eu ce double mouvement qui a généré ce long exode rural qui a duré jusqu'aux années 80.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Patrimoine, vous parlez d'ailleurs de ces élevages de brebis, donc on peut supposer aussi du travail de la laine. Est-ce que c'est une activité actuellement qui tendrait à revenir? Et pour cela, est-ce qu'on peut se baser sur cette histoire pour essayer de développer cette activité?
Alors, La laine, c'est un secteur quand même bien particulier. Le fait que c'était une industrie lourde, avec certaines fonctions qui sont devenues extrêmement difficiles à faire en artisanat, dont en particulier le lavage de la laine. Il y avait plusieurs laveries de laine en France, mais maintenant il n'y en a plus qu'une dans le Massif central, dans la Haute-Loire. Et puis il y en a une autre qui est très importante, c'est à Biella, en Italie, au nord de Turin. Et ça a fait qu'il y a une concentration extrême de l'industrie lainière en France. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petites activités qui renaissent ça et là. Alors, bien sûr, il y en a une très importante qui est Ardelaine, en Ardèche. Mais dans le Diois, il y a un producteur de laine, une productrice, je crois plutôt, à Glandage, qui s'est mis en coopérative avec d'autres producteurs dans le Beauchêne, qui fait des laines de très bonne qualité. Et qui, alors je crois qu'il lave, il me semble, à Biella. Et puis après, la laine est ramenée pour être filée et puis travaillée dans le Beauchêne. Mais oui, il y a réellement dans la laine une espèce de renouveau, relocalisation, etc. Mais il y a des difficultés pour certaines tâches de traitement de la laine.
Mais c'est un travail en cours, toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui tentent vers cette activité, en tout cas de la laine. On peut parler aussi de la soie, hein, qui était quand même une grosse industrie. D'ailleurs, il y a des mûriers hein, sur le site de l'ancien monastère. Donc ça aussi, c'est une activité qu'on ne reverra certainement plus.
Alors attention, c'est comme tout dans le monde. Alors maintenant, c'est fonction de la mondialisation. Il ne faut pas oublier que dans les années 2000, par exemple, les Chinois ont bloqué l'exportation de cocon. En l'espace de quelques mois, les industriels de la soie, en lien avec la région Rhône-Alpes et puis l'État, ont remis en place dans le sud de l'Ardèche, dans le domaine Olivier de Serre, un centre de fabrication de cocon qui a fonctionné quelques années. Et qui a fait que bon ben il y a une relance de l'industrie de la soie ici. Alors dès que les Chinois ont réouvert le commerce, ça s'est effondré. Mais quand même, il faut jamais oublier ces périodes de l'histoire où dans certains cas on est revenu localement à ces savoir-faire anciens. Alors bien sûr, le centre de production de la soie dans le sud de l'Ardèche, c'était un bâtiment ultra moderne, extrêmement conditionné, avec chaleur, humidité, etc. Donc il y a toujours cette idée de mélange entre des savoir-faire anciens et des techniques modernes.
Il y a aussi, donc, vous parliez de la Gaec de Mont-Lahuc, l'ancien monastère de Sainte-Croix, qui sont en quelque sorte l'héritage de plusieurs siècles de savoir-faire. Est-ce qu'ils tendent ou est-ce qu'il y a une démarche de leur part à se faire connaître ou à partager aussi, au-delà du Diois et de la Drôme, de ces savoir-faire?
Bien sûr. Alors, pour ce qui concerne le Gaec de Mont-Lahuc, je crois qu'il fait partie d'un réseau qui s'appelle les fermes paysannes et sauvages, dans lequel ils essayent de réintroduire vraiment fortement la nature, la faune sauvage, etc., dans les exploitations agricoles. Et c'est un réseau qui est né de la plaine de Valence, qui est constitué d'une vingtaine ou 25 exploitations, qui accueille du public, mais aussi qui apprend. Et par exemple, un des principes de ce réseau, c'est de ne pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Quand on voit une plante qu'on ne connaît pas, d'abord, on la connaît avant de la détruire. Quand on voit un animal, un insecte qu'on ne connaît pas, avant de le détruire, on le connaît. Et pour ça, ils se sont mis en relation avec des naturalistes, avec le téléphone, avec les moyens modernes. Ils prennent des photos, ils envoient, ils ont la connaissance. Et puis, ils prennent la décision ensuite. Mais il y a toujours cet acte de se mettre en réseau pour mieux connaître. Et Sainte-Croix, c'est pareil. Ils font partie de plusieurs réseaux, d'abord pour s'entraider. Alors, il y a l'Union régionale des SCOP, des coopératives, etc. Mais il y a aussi tout un des réseaux avec d'autres centres d'accueil du public, par exemple Terre Vivante dans le Trièves, etc., qui sont en réseau mais pour étudier la situation de ces centres qui s'occupent de l'accueil du public dans des conditions un peu de transition et comment se faire connaître, comment mieux accueillir le public qui est intéressé et en même temps rentabiliser, puisqu'il ne faut jamais oublier que ce ne sont pas des lieux subventionnés, ce sont des lieux qui vivent par l'économie, par le marché, et donc ils ont besoin de se développer.
Alors, on peut peut-être parler plus longuement aussi de ces études dromoises. Qui constitue ce journal qui est un périodique régulier?
Alors, il paraît tous les 4 mois. Il y a une association qui s'appelle toujours l'Association universitaire des études dromoises, qui est présidée par Anne-Marie Ravel, qui est à Pérou, et qui réunit un conseil d'administration. C'est vrai qu'on trouve encore pas mal d'anciens enseignants qui sont tous bénévoles. Hein. C'est vraiment une association qui repose sur le bénévolat. Il y a aussi un comité de rédaction. Et pour chaque numéro, il y a des rédacteurs. Alors, soit les gens envoient volontairement leur revue, soit il y a un thème, comme cette revue-là, il y avait un thème. Et on cherche des rédacteurs. Et puis, les articles sont ensuite écrits sur la base de consignes qui sont assez simples. Ce n'est pas des revues scientifiques avec comité de lecture, etc. Il y a une relecture, mais elle ne porte pas sur le fond. Elle reporte plutôt sur la forme. Et puis après, il y a bien sûr mise en page avec une excellente graphiste qui a fait le travail. Il y a même les recherches sur la couverture. Là, dans le numéro 100, la couverture a été faite par Jacques-Rémy Girard, qui est le fondateur de Folimage. Et c'est une couverture qui représente la cartoucherie, qui est le bâtiment de Valence, qui est, enfin, le Bourg-les-Valence, l'ancienne usine qui est maintenant reconvertie en industrie de production de cinéma animé.
Il y a aussi donc cette présentation qui est proposée, vous le dites, aux chercheurs. Alors, on parle de quels chercheurs?
Alors, ça peut être de toutes les approches disciplinaires possibles. Ça peut être des géographes, ça peut être des historiens, ça peut être des politistes, ça peut être des sociologues. Mais l'idée, c'est de valoriser des travaux qui sont amenés à faire sur la Drôme. Quand il y a une thèse, par exemple, pourquoi pas présenter la thèse dans ces travaux? Alors, ça peut être mis sur le site Internet qui s'appelle Études Drômoises, Études au pluriel, Drômoises au pluriel. C'est très facile d'accès et sur lequel il y a d'abord l'accès aux anciens numéros, pas les plus récents, mais les plus anciens. Ils sont tous accessibles en ligne. Et puis, il y a un espace dédié aux travaux de recherche qui ne sont pas publiés dans le bulletin qui paraît, lui, 4 fois par an. Alors, le bulletin, il est accessible par abonnement. Pour 35 euros par an, il y a 4 numéros. Ou alors, il peut être trouvé dans des commerces pour 10 euros. Alors, actuellement, dans le DIY, il peut être trouvé à la librairie Mosaïque. Et puis, il y aura quelques numéros qui seront mis en vente lors des journées de l'écologie.
Il y a une image aussi sur Internet de pouvoir découvrir un peu les articles.
On peut découvrir justement le numéro 1 sur si vous cherchez des connaissances sur le patrimoine de Die et en particulier l'archéologie, vous avez des articles extrêmement intéressants rédigés par M. Desey. Et puis bien sûr, depuis, il y a eu plusieurs centaines de numéros, et donc qui fait que c'est quand même une source d'information assez intéressante, accessible en ligne.
Par rapport à son existence, donc 65 ans d'existence de cette revue,
oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez pu voir les sujets évoluer? Est-ce qu'il y a des prises en compte qui ont évolué avec le temps et peut-être aussi avec les impératifs de l'ordre climatique?
Évidemment, l'étude n'a pas été faite de l'évolution thématique. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on passe de plus en plus du patrimoine matériel, du fait des vestiges anciens, etc., à l'élargissement au patrimoine immatériel, les savoir-faire, les traditions, les fêtes, tout ce qui est... Et puis, petit à petit, arrive le patrimoine naturel, qui a fait l'objet de nombreux articles, en particulier d'un rédacteur du DIY, M. Heringer, qui a écrit de nombreuses, très nombreuses chroniques dans Études Drômoises. Et puis... aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit apparaître d'autres sujets, mais le numéro 100 a ceci d'exceptionnel, à mon avis, qu'il est complètement associé ou complètement consacré à cette notion de transition. Transition peut être écologique, mais elle peut être sociale, elle peut être dans l'habitat, etc. Et c'est quand même la première fois que la question est abordée de front. Hein, qu'au lieu de considérer le patrimoine comme étant uniquement mobilisé pour la mémoire, pour les choses anciennes, etc., eh bien, au lieu de ça, il est pensé pour l'avenir.
On parle de l'avenir, mais aussi de ce qui existe en contemporain. Cela aussi fait partie du patrimoine. Par contre, par exemple, vous citez la coopérative Huitfeldt-Blab. C'est quand même une structure assez récente hein, dans l'histoire, mais vous, vous en prenez compte dans cette notion du patrimoine.
Tout à fait, parce que ce qu'on a voulu prendre en compte, là, c'était deux dimensions. La dimension que la coopération a une histoire. L'histoire de la coopération en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est devenu un patrimoine. C'est quand même le résultat d'une histoire très très longue, en particulier du mouvement ouvrier, qu'il a fondé pour répondre à ses besoins propres. Et je crois que c'était le clin d'œil qui était fait là, que la coopération dont est issu le Fab Lab, puisque c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et c'est la dernière forme possible de coopération, la dernière forme définie par la loi, après les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production. Et c'était de montrer que, ben oui, ça aussi, c'était un patrimoine. La coopération, c'est un patrimoine immatériel. Alors le fait aussi que c'est installé dans une maison du XVe siècle, a créé une belle maison, c'est aussi un clin d'œil au patrimoine.
Pierre-Antoine Landel, comment êtes-vous arrivé à être rédacteur au sein de cette revue ?
Comme tous les autres rédacteurs, moi je suis bénévole, hein, je suis pas... Alors, dans mon histoire, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été longtemps agent de développement, cadre des collectivités. J'ai même travaillé dans le syndicalisme agricole, dans la Drôme, pendant 22 ans. J'ai travaillé un peu en Ardèche aussi. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir, après, être à l'université de Grenoble. J'ai été géographe pendant 22 ans aussi. Et donc, ça m'a permis de passer de ce qu'on appelle l'expérience qui est située, qui est localisée, qui est toujours passionnante, mais qui n'est pas transmissible. Et de poser la question, comment est-ce qu'on fait pour transmettre une connaissance ? Et on s'aperçoit que ben il y a des incontournables qui est le fait de pouvoir questionner l'expérience, pouvoir l'interroger, pouvoir la critiquer, pouvoir prendre de la distance et pouvoir aussi la confronter à d'autres expériences. Et puis enfin, de pouvoir la formaliser, de pouvoir la rédiger. Par exemple, mais aussi on peut faire des films, on peut faire d'autres objets. Et je crois que, oui, c'est ce qu'une revue comme celle-là permet de poser des questions ensemble, de les traiter ensemble, et puis surtout de la rendre formelle, c'est-à-dire d'en sortir un support matériel qui va être accessible à tous. Et bien, je pense que c'est le rôle de cette revue.
À ce jour, cette revue intéresse certainement beaucoup de lecteurs, de plus en plus peut-être. Et est-ce qu'il y a aussi une nouvelle génération ? Est-ce qu'elle s'enrichit aussi de cette jeunesse aussi qui a envie de rédiger des textes dans cette revue ?
Alors, dire que la situation est enthousiasmante, je crois que ça serait un petit peu un euphémisme. Comme toutes les revues, c'est difficile. Parce que l'écrit est de moins en moins recherché. Hein. Alors, ça tire entre 900 et 1000 exemplaires. Il y a à peu près 300 abonnés. Et donc, vous voyez que ça reste quand même assez fragile. Alors, on travaille dans plusieurs directions. On développe des coopérations avec des supports médias. Vous verrez dans le numéro, on travaille avec Vidéo Val-de-Drôme, avec Jacques Mauricant, qui fait partie du conseil d'administration de la revue. Et puis on travaille aussi avec une revue qui est beaucoup moins connue, mais qui est en ligne, qui s'appelle Qui plus est art, qui est une revue de bon niveau, alors là de qualité, mais en ligne. Et plusieurs articles s'échangent, font référence à l'un puis à l'autre, etc. Et l'idée, c'est de ne pas cloisonner, mais au contraire de décloisonner les approches, de ne pas faire en sorte que chacun ait sa chapelle, mais de décloisonner, etc. Et l'autre solution, évidemment, c'est la jeunesse. Et c'est pour ça que si des jeunes sont intéressés, si des jeunes veulent écrire, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et ils seront les bienvenus. Et ça, c'est évident que c'est par là que passe l'avenir.
Cette revue est disponible, comme vous le disiez, à certaines librairies ou même maisons de la presse. On peut le trouver aussi dans les médiathèques ou dans certains endroits publics.
Alors, normalement, elles sont accessibles à la condition qu'elles soient abonnées. Alors, je pense que celle de Dick qui a une telle qualité est abonnée, mais je ne le sais pas exactement. Ça, je ne peux pas répondre.
Pierre-Antoine Landel, en tout cas, je crois qu'on a fait un rapide tour sur cette revue, riche en histoire et en anecdotes. Est-ce qu'il y a une équivalence courante dans beaucoup de départements ou c'est une exception, ces études drômoises ?
Alors, à ma connaissance, c'est extrêmement courant. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que dans la Drôme. Alors, dans la Drôme, il y a une particularité, c'est qu'il y en a deux. Il y a une revue qui s'appelle la Revue Drômoise, et puis il y a la revue Études Drômoises. Ça serait trop long aujourd'hui de les différencier, d'autant plus que je n'ai pas la compétence pour le faire. Mais il y en a une qui est plutôt académique, et l'autre plutôt grande diffusion, grand public, et puis les affaires du quotidien, qui ne sont c'est moins une approche scientifique. C'est la revue Études Drômoises. Et puis, en Ardèche, il y en a aussi plusieurs, de très, très bonne qualité. Je suis originaire des Ardennes, il y en a plusieurs aussi, de très, très bonne qualité. Et ça, c'est intéressant, c'est que, bien souvent, le patrimoine, ça a été des affaires départementales. Alors, pourquoi ? Parce que dans l'histoire de la France, de la République, eh bien, le département, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. C'était un découpage qui a été décidé par le haut. Et il a fallu le construire pendant des années. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour le construire ? Pour le construire une identité, pour construire une image. Eh bien, ils se sont servis du patrimoine. Et ce n'est pas un hasard que maintenant, on retrouve des revues départementales.
Est-ce que pour vous, ce sont aussi des outils pour certains décideurs de savoir sur quelle voie lancer une idée ou un programme ou des projets ?
Ça, je ne sais pas. Il y a,
à ma connaissance... Je parle de position politique ou...
Mais vous verrez, dedans, il y a un exemple qui est tout à fait intéressant à étudier. C'est le pont du Cholet dans le Royan. Puisque c'est un pont qui appartient au département, qui était d'une qualité patrimoniale certaine, puisque c'est un pont de l'architecture Eiffel, et c'est pas Eiffel l'auteur, mais c'était le même type d'architecture, donc il a marqué une époque, et il a marqué l'histoire aussi du tramway qui reliait Romans avec Pont-en-Royans. Et il s'avère que bon, il y a eu une construction d'une route à la place du tramway, et puis ils ont coulé du béton, ça a considérablement endommagé l'ouvrage qui était destiné à la destruction. Il y a eu une mobilisation locale des habitants pour le maintien du pont. Vraiment, il y a un fort mouvement qui a fait que l'intercommunalité du Royan et du Vercors a intégré le pont dans son schéma local des déplacements. Et le département a décidé récemment, et c'est mis dans l'article, la présidente du Conseil général le dit, d'inscrire le pont à la rénovation à partir de fin 2025 pour en faire la portion d'une piste cyclable qui reliera Saint-Laurent-en-Royans à Pont-en-Royans.
C'est une revue très illustrée, hein, d'images, de photographies. Il y a notamment celle de l'ancien monastère. Et là, je découvre qu'il y a apparemment des capteurs photovoltaïques, hein, aux abords du jardin botanique. Donc, c'est aussi la rencontre de la modernité et du patrimoine.
C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est que les capteurs ont été installés par Acoprev, qui est à Saint-Julien-en-Quin, et que... Ils se veulent vraiment au service du projet du nouveau monastère. Alors, d'aucuns vont dire que ça n'embellit pas le site. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui n'est ni inscrit ni classé par le patrimoine. Et pourtant, si vous le visitez, c'est quelque chose de très, très beau, hein, le site du nouveau monastère, la grande cour avec les activités culturelles qu'il peut y avoir dedans. En plus, la particularité qu'il y a un temple-église qui est adossé, hein, qui est vraiment quelque chose d'assez unique. Et le fait qu'il y ait ces ombrières, ça montre que, bien, pour l'avenir, ils sont capables d'associer à la fois le passé et le futur avec les énergies renouvelables.
On peut retrouver cette revue, donc, comme je le disais, et vous le disiez, dans les librairies. Et aussi, donc, il y a ce site internet, études drômoises au pluriel, tout attaché, .fr, pour connaître un peu et peut-être s'abonner aussi.
Voilà, s'abonner surtout.
Oui.
C'est la solution la plus intéressante et pour vous et pour nous.
Il y a une idée, juste des personnalités qui ont marqué la Drôme. Est-ce qu'il y en a une particulière qui a intéressé, qui vous a intéressé dans ce que vous avez traité ?
Alors, Là, dans le cas présent, vous verrez, ceux qui sont intéressants, ce sont les porteurs des projets. Et ce sont tous ces acteurs de la transition, qu'ils soient des anciens habitants, des nouveaux habitants. Mais surtout, ils ont une caractéristique, ces habitants, c'est qu'ils arrivent à travailler ensemble. Et que c'est une affaire, une aventure collective. Et donc, on n'est pas dans l'image du grand homme, on n'est pas dans l'image du leader tout puissant, etc. On est plutôt dans l'image du bricolage, de l'essai, de l'erreur, et puis de l'innovation, de ce que c'est que réellement l'innovation.
Pierre-Antoine Landel, je vous remercie beaucoup d'être venu sur Air du Bois pour nous parler donc de cette revue Études Dromoises et avec cette sortie du 100e numéro.
Je vous remercie.
Et je vous remercie aussi. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.